Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explications et débats autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Voilà, comment la population peut-elle s'approprier des routes et des ponts construits? Vous savez, en RDC, il y a plusieurs routes et ponts ont été réhabilités. Il y a également même des ponts qui ont été construits et d'autres encore en cours de réhabilitation à travers le pays. D'après les experts, pour que ces ouvrages puissent avoir une longue vie ou durent plus longtemps, il faut également l'implication de la population. Cette dernière doit bannir certains comportements. C'est le cas, par exemple, des caniveaux qui ne doivent pas être transformés en poubelles. Il y a également le respect des tonnages en ce qui concerne les ponts. Donc voilà, on va en découvrir avec notre invité Ilan Gongo Criso, directeur du cabinet adjoint au ministère des Infrastructures et Travaux Publics, comment la population peut-elle s'impliquer. Nous rappelons le numéro des contacts, c'est les 081 890 63 94. Il suffit d'appeler, de donner votre numéro et puis nous, on va vous rappeler. Ilan Gongo Criso, c'est encore un plaisir pour nous de vous avoir dans ce studio pour parler d'un sujet très intéressant qui concerne la population, comment elle peut s'impliquer dans l'appropriation de routes et ponts construits. Alors, la première question, qu'est-ce doit faire la population pour que ces routes et ponts construits puissent avoir une longue vie, c'est-à-dire qu'elle s'implique, qu'elle s'approprie ces ouvrages?
Oui, merci pour cette première question. Je pense que, de prime abord, je veux dire que la population doit d'abord considérer que c'est son patrimoine. Parce que les routes, c'est un patrimoine national. Dans la mesure où cet ensemble d'infrastructures routières nationales, provinciales ou locales et urbaines appartiennent à la population. Et la deuxième chose aussi, je pense que la population doit aussi maîtriser ce que c'est que la route. Nous savons que, de manière générale, la route est divisée. Comme nous devons le savoir, il y a la chaussée, il y a les accotements, les trottoirs, les talus, et aussi les dégagements de la route. Et enfin, la route est aussi un produit. Un produit, donc, qui a un mode opératoire. C'est le résultat de toute une conception qui agit dans certaines conditions que la population devrait connaître. C'est ainsi que, dans l'ensemble de cette conception, nous voyons que sur une route, on a des équipements qui sont là, qui sont inhérentes à la route. Nous avons les ouvrages d'art qu'on appelle généralement ou les ponts ou les ouvrages d'assainissement. Oui. Nous avons toute la signalisation que vous voyez sur nos routes pour protéger la solution, assurer une bonne circulation. Nous avons sur certaines routes aussi des stations de pesage qui sont là pour protéger cette route-là. Nous avons sur nos routes en terre ce qu'on appelle aussi les barrières des pluies. Et toutes ces choses-là, si la population les comprend, je crois qu'elle réagira beaucoup mieux et nous allons en parler tout à l'heure dans
la minute. Ah bah, également, la population peut également se poser la question de savoir est-ce que les services des infrastructures et travaux publics, est-ce que sensibilisent la population par rapport à certains comportements? Parce que peut-être ceux qui nous suivent vont bien se dire mais ça c'est vrai, mais on n'a jamais été sensibilisé par rapport à ça.
Je pense que là, je peux vous confirmer, et je pense que nous sommes dans la ville. Nous avons, par exemple, avec FONER, qui est notre Fonds National d'Entretien Routier, il y a eu une série d'émissions de vulgarisation avec les acteurs ici sur les traversées, sur la protection de la route du point de vue mauvaise pratique et tout le reste. Mais nous pensons qu'à ce niveau-là, c'est vrai, comme vous l'avez dit dans l'introduction, il y a la part de chacun.
Oui.
C'est vrai que, en ce qui nous concerne, cette sensibilisation est basée sur ce qu'on a sur deux arrêtés. Un arrêté sur la protection du patrimoine routier, qui reprend de manière explicite ce que, en tant qu'État, nous attendons de la population, ou ce qu'il ne faut pas faire pour protéger la route. Mais nous pensons qu'à côté de là, il y a ce que vous avez appelé le civisme personnel,
oui.
Mais nous avons aussi l'encadrement. On est une société, on a une territoriale qui est là. Nous pensons que la vulgarisation est à tous les niveaux, autant que la presse aussi, comme vous êtes en train de le faire. Et je pense que c'est la conjonction de toutes ces sensibilisations qui peuvent, comme vous le faites aujourd'hui, nous permettre, en répondant à certaines questions, en donnant certains conseils, peut-être aider la population à mieux comprendre cette problématique.
Ah, vous avez cité FONER, qui est les fonds nationaux d'entretien routier. Généralement, c'est ce que les gens pensent, que en tout cas, ce travail revient à FONER. Donc, c'est pas bon de prendre les choses de cette façon-là.
Je ne sais pas de quel travail vous parlez.
C'est-à-dire de l'entretien de route. Parce que quand il y a bon nombre de gens qui estiment que bon, voilà, il y a un fonds national d'entretien routier, donc ils pensent que ça appartient au FONER de le faire, alors que à vous suivre, c'est pas vraiment cela. La population doit également travailler de concert avec FONER, parce que ce sont les routes, les ponts qui sont là pour le bien de tout le monde.
Tout à fait. Je crois que vous l'avez bien exprimé. FONER, comme je l'ai dit, c'est un fonds mis en place pour essayer de mobiliser les ressources pouvant servir à l'entretien. Et pour votre information, rapidement, donc le FONER, c'est un mobilisateur qui met à la disposition du gestionnaire des routes nationales, ça veut dire l'office de route des fonds, ainsi que de la voirie. Mais je pense qu'on est déjà passé sur ce débat. Aujourd'hui, notre mobilisation a une limite. On est aux environs de 40% de ce qu'il nous faut pour entretenir les routes. C'est vrai qu'on a besoin de plus d'argent, mais aussi, ce que je voudrais attirer, que le civisme aujourd'hui participe aussi à prendre en charge une grande partie d'entretien. Et pour ce faire, je peux rappeler rapidement, c'est des choses qui se sont passées dans ce pays. Nous avons eu ce qu'on a appelé Salomon à l'époque.
Oui.
Et nous avons aussi, suivant le texte, que nous avons une certaine responsabilité d'entretenir le voisinage de là où nous habitons. Nous avons aussi eu dans cette ville des endroits où on pouvait aller mettre tous nos déchets et pouvoir ainsi les brûler. Mais il y a eu des problèmes de civisme de part et d'autre.
Oui.
Et de la population qui, par ce que vous savez, l'urbanisation anarchique, s'est imposée dans certaines choses, et parfois des lieux d'utilité publique qui existait. Il y a aussi eu de l'incivisme, parce que l'incivisme, on ne parle pas que du côté de la population, mais aussi au niveau des acteurs que nous sommes. Nous savons qu'il y a des endroits où on pouvait brûler tout ce qui arrivait, qui ont été peut-être vendus. Tout ça, c'est des choses qu'aujourd'hui, nous voudrions que les gens prennent conscience que si nous ne nous en préoccupons pas, nous serons débordés.
Alors prenons pour le cas de cette pratique qui est jeter les ordures dans les caniveaux. Quels sont vraiment les dangers par rapport aux routes?
Voilà. Je vous ai dit au départ que la route, comme un produit, comme une réalisation, a un mode d'emploi.
Oui.
Je vous ai dit, la route est une conséquence d'une conception qui tient compte, entre autres, essentiellement, des différents bassins versants et aussi des véhicules qui doivent passer là-dessus. Et c'est comme ça qu'il y a un critère. Par exemple, les caniveaux sont réglés pour prendre une certaine quantité prévue d'eau qui doivent assurer la circulation et ne pas déborder sur la route. Vous comprenez qu'un réflexe de venir avec des ordures placées dans les caniveaux diminue la capacité de ces caniveaux à pouvoir prendre de l'eau. Nous pouvons l'observer dans plusieurs cas. Vous voyez au niveau de Palais de Marbre, au niveau de l'Ozone, quand il pleut, vous voyez que l'eau n'est plus dans les caniveaux, mais l'eau devient plutôt une rivière sur la route. Alors, l'eau a une vitesse, et c'est une vitesse dynamique. Ceux qui sont plus bas, ils reçoivent cette eau qui devait passer dans les canalisations et dans les égouts et aller calmement sur la rivière, passe sous la route et va endommager nos propres maisons, vient nous détruire. Et c'est une question de responsabilité. Je prends un deuxième cas.
Oui.
Ces ordures sont jetées, mais il y a aussi des comportements où nous avons vu dans cette ville, il y a eu des réseaux d'égouts qui permettent que ces caniveaux puissent ramener toutes nos eaux jusque dans les rivières. Aujourd'hui, nous avons des gens qui, pour leur intérêt personnel, ont arrêté des égouts, ont construit des maisons en bloquant une circulation. Ce qui fait, dans le cas, par exemple, du côté de Willery, ou même en ville sur le boulevard du 30 juin, beaucoup de choses que vous voyez, c'est qu'il y a des immeubles qui ont été construits en bouchant les caniveaux. Parfois, au vu ou au su de la population et parfois des autorités. Et à ce moment-là, aujourd'hui, des mesures sont prises pour essayer de restituer ces zones de circulation pour l'intérêt général. Mais là, j'en parle parce que quand l'État intervient, il utilise son pouvoir gardien pour protéger un grand nombre, notamment par les expropriations ou la destruction. Parfois, la population semble ne pas comprendre. Mais nous voulons rappeler ici que nous rétablissons de l'ordre, c'est pour l'intérêt de la population, et nous demandons à la population de pouvoir s'opposer à ce genre de comportement parce qu'à terme, c'est eux qui payent le prix fort.
Voilà, comment la population peut-elle s'approprier des routes et des ponts construits? Ilha Ngongo Kriso, directeur du cabinet adjoint au ministère des Infrastructures et Travaux Publics, est notre invité. Vous êtes intéressé par ce sujet, vous voulez poser des questions, le numéro d'appel, c'est le 081-890-63-94.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces. À 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Étienne Bitté nous appelle de Guémena dans la province de l'Équateur. Étienne, bonjour.
Bonjour à Radio Capi, bonjour à tous les auditeurs et à l'invité, le directeur du cabinet.
On vous écoute, Étienne.
Ok, merci, monsieur le journaliste. Je pense que j'ai suivi l'invité avec tout intérêt. Il est vrai que la route ou les routes constituent le bien public qui est censé être protégé et par la population et aussi par l'État. Cet invité a évoqué toutes ces raisons-là, c'est vrai. Mais une chose, c'est que le constat que nous faisons, c'est que dans la plupart des cas, par exemple le ministère de Travaux Publics et Infrastructures, les contrats dont signe le ministère avec certaines sociétés, tant privées que publiques, pour la construction des ponts et la réalisation des routes, sont des contrats qui parfois nous laissent désirer. Parce que on constate qu'une société signe un contrat et réhabilite la route, et parfois les travaux ne touchent pas à sa fin, ou parfois la société utilise des engins amortis, affaiblis, et des matériels qui ne sont même pas à mesure de réhabiliter les routes. Donc, moi je pense déjà qu'au niveau du ministère, on doit mettre une politique de suivi vraiment des activités ou des contrats qui sont signés, donc par les sociétés qui réhabilitent les routes ou les ponts. Parce que, oui, les problèmes de tonnage et qu'on soit d'accord, mais la qualité des productions, des travaux qui se font, parfois ne sont pas tellement efficaces comme il n'y a pas de suivi. Et donc ça ne fait absolument rien. Je voudrais donner un exemple, par exemple, de l'Équateur ici. Le contrat, par exemple, que le gouvernement congolais aurait signé pour la réalisation des routes Gemena-Zongo, Gemena-Akula. Mais voilà, jusqu'à preuve du contraire, je ne sais pas, le directeur du cabinet pourra nous dire où en sommes-nous, parce qu'on a lancé les travaux, mais jusqu'aujourd'hui, rien ne s'est fait. Donc, on ne sait pas jusqu'à quand les travaux vont démarrer, et quand on voit même les engins qui sont en train d'être envoyés pour ces travaux, on constate que ce sont des engins vraiment qui ont travaillé pendant longtemps et qui ne seront pas à mesure de réhabiliter en bonne et due forme les routes qui sont vraiment dans un état très délabré, monsieur le journaliste.
Merci, Étienne Bitté, d'avoir appelé de Guémena dans la province de l'Équateur. Al-Boumbashi Okatanga, Nelson Tchibanda est en ligne. Bonjour, Nelson.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute?
Ok, ça va. Merci beaucoup de la parole. Je suis aussi intéressé par ce sujet. Je partage vraiment le point de vue de l'invité du jour. Je voudrais intervenir néanmoins au niveau des responsabilités. Donc, les responsabilités sont vraiment partagées. Le gouvernement a sa part de responsabilité et nous, la population aussi, nous en avons. Du côté des gouvernements, moi je pense que les gouvernements devraient commencer d'abord par les campagnes de sensibilisation, c'est-à-dire faire comprendre aux populations que ces biens vous appartiennent, ce sont vos biens, vous devez apprendre à les protéger et à les gérer jalousement. Parce que si vous voyez les sensibilisations, si elles sont faites au niveau des grands centres, mais si vous descendez à l'intérieur du pays ou à l'intérieur des provinces, vous comprendrez que les populations ou la population n'a pas suffisamment d'informations à ce qui concerne donc le respect et aussi la protection des biens publics. Il y a certains volontaires, prenons le cas des députés par exemple, qui viennent construire des ponts, ou dans d'autres cas c'est le gouvernement qui le fait. On construit des petits ponts, on essaye d'arranger un peu des routes, mais la population locale ne sait pas que ce sont les biens qui nous appartiennent, il faut les protéger, il faut les garder jalousement. Et du côté aussi, du côté du gouvernement, je vous donne le cas, je suis à Lubumbashi, mais je vais vous donner le cas de la ville de Mbujimayi, par exemple. Si vous arrivez à Mbujimayi, faites attention aux avenues. Regardez un peu les avenues là des Goujman, vous allez voir. Pendant la saison de pluie ou la saison A, je ne sais pas comment les agronomes appellent cela, vous constaterez que les gens transforment les avenues en champs. Vous trouverez les feuilles de patates, vous trouverez les maïs, vous trouverez toutes sortes de cultures, mais sur les voies publiques ou sur les avenues. J'étais étonné une fois de trouver même une église qui est construite sur une avenue. Donc, la population était obligée de traverser dans une parcelle du voisin parce que l'avenue était occupée par une église construite sur une avenue. Je pense que la population n'est pas suffisamment informée. Et le gouvernement aussi doit prendre ses responsabilités en proposant ou en amenant un peu des campagnes de sensibilisation.
Merci Nelson, merci d'avoir appelé de Lubumbashi dans la province de Katanga. On va rester dans cette même ville, la même province pour retrouver Fina Chomba. Bonjour Fina.
Bonjour Marcel, bonjour à l'invité et à tous ceux qui sont branchés à Okapi.
Alors, on vous écoute.
Ok. L'entrée en jeu déjà, je voulais ou donner ma contribution dans le sens que construire les routes en est une chose, mais le maintien de ces routes en est une autre. Parce qu'au Congo, la politique est seulement de construire les routes, mais la maintenance et la suivi de ces infrastructures n'existent presque pas. Nous prenons l'exemple du Rwanda, parce que j'ai fait un tour au Rwanda un jour pour des raisons de santé, j'étais parti à l'hôpital, où j'observais que là, l'État a financé l'entretien des routes. Dans quel sens? Chaque jour, il y a des gens qui sont postés sur la route et qui vous balayent cette route autant de fois par jour. Pour dire que les caniveaux ne peuvent jamais être bouchés, ils sont contrôlés également par ces gens, et les routes sont balayées. Donc, mais ici chez nous au Congo, qu'est-ce que nous constatons? C'est que on construit les routes, mais l'entretien n'existe pas. La maintenance également n'a jamais existé. Donc, pour moi, je pense que si peut-être notre gouvernement finance la construction des routes, qu'il songe également à financer le maintien et l'entretien des routes, même plus que l'argent qu'il a investi pour la construction. Pourquoi? Parce que, imaginez, les travaux de route peuvent s'effectuer dans deux ans ou dans une année, tandis que la maintenance et l'entretien des routes peuvent aller au-delà de 10 ans. C'est pourquoi les budgets qui doivent être investis à l'entretien et au maintien des infrastructures routières doivent être supérieurs au montant de la construction. Voilà ma contribution.
Merci Fina Chomba depuis Lubumbashi au Katanga. Mbujimayi au Kasaï Oriental, Doudou Kadima est en ligne. Bonjour Doudou.
Bonjour Marcel, bonjour à l'invité.
On vous écoute Doudou.
En fait, pour ne pas revenir à ce que les amis ont déjà abordé,
oui.
Je vais un peu dire ceci. Bien sûr, les responsabilités sont partagées, mais la grande responsabilité revient à l'État. Bon, par exemple, parce qu'ici en Mbujimayi, nous n'avons pas vraiment des routes très viables. Vous verrez une personne qui grince en cours de route, et puis s'il est surpris par un chef de quartier, vous verrez cette personne-là va chercher à corrompre le chef de quartier pour laisser passer cette. Alors, j'aimerais un peu poser ma question à l'invité. Quelle est la part de l'État dans cette affaire? Et puis, j'aimerais un peu lui poser la question en ce qui concerne les caniveaux. Vous verrez d'abord Marcel ici en Mbujimayi. Aucune route, vous ne trouverez jamais une poubelle. Bon, je ne sais pas moi, là où les gens peuvent jeter les immondices, ils n'ont qu'à jeter dans des caniveaux parce qu'ils n'ont pas de poubelle. Donc, la grande responsabilité revient à l'État. Et puis, pour terminer, j'aimerais un peu que notre invité, comme il fait partie du cabinet, qu'il me fasse un peu comprendre. Pourquoi le projet de réhabilitation des routes commence toujours par Kinshasa, mais pourquoi pas ici dans d'autres provinces? Merci beaucoup.
Merci Doudou Kadima depuis Mbujimayi au Kasaï Oriental. Comment la population peut-elle s'approprier des routes et des ponts construits? Nous avons avec nous dans ce studio Ilangongo Kriso, directeur des cabinets adjoint ministère des Infrastructures et Travaux Publics. On va y aller avec d'abord la question à ses préoccupations de Tienbit et qui a appelé le Guimena. Vous avez suivi. Il a dit bien souvent, c'est également le problème sur la qualité des routes. C'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits crédit pour construire des routes, même les réhabiliter, mais c'est la qualité hein, qui pose problème, ce qui fait que c'est aussi des fois pas facile de les entretenir.
Je suis très heureux avec la qualité des questions qui ont été posées et je voudrais vraiment remercier les auditeurs pour leur contribution. Pour M. Étienne Bitté, je suis aussi satisfait que tous nous comprenions que la protection est une responsabilité partagée et que réellement le civisme devrait caractériser toutes les parties. Et je voudrais le rassurer et peut-être réellement apprécier ses commentaires sur le travail qui se fait sur la route à Kulazongo, où il a évoqué notamment la qualité du matériel qui présage d'un mauvais travail. Et là, je voudrais lui dire que sur question de responsabilité, c'est un exemple où, dans le cadre de ce projet, comme vous savez, qui est financé par la Banque mondiale, l'État ou la partie gouvernement s'est assumée. Il s'agit de quoi ? C'est malheureusement une situation peut-être qui est basée sur parfois l'enclavement. C'est le deuxième entrepreneur, la deuxième entreprise qui a été sélectionnée, mais il s'est fait que dans les conditionnalités pour faire un bon travail, notamment la mobilisation et les qualités de matériel, ils n'ont pas donné satisfaction. Et je peux l'informer qu'aujourd'hui, nous regrettons, c'est l'occasion encore vraiment de nous excuser pour ce qui se passe sur cette route-là, mais on a dû utiliser les textes, les contrats. Cette société-là est mise en demeure et nous pensons que très bientôt, on aura probablement la société dans cet appel d'offres qui suivait, qui est à proximité, qui pourra reprendre le travail avec une bonne qualité. Et là, c'est juste pour dire que nous ne pouvons pas, en tout cas en tant que ministère, faire passer une entreprise qui pourrait faire un mauvais travail. Nous pouvons voir que dans ce cadre-là, il y a des routes qui ont été faites. Il y a Kisangani, Beni, et nous avons Kisangani jusqu'à Bunduki, Bondo, qui a été fait avec ce qu'on appelle le génie. Ça veut dire que nous garantissons un niveau de service sur ces travaux-là. C'est ce que nous voulons faire sur cette route-là, qui va de Guémena jusqu'à Zongo. Et les entreprises qui sont arrivées jusque-là n'ont pas répondu aux exigences.
Est-ce qu'au niveau du ministère, parce que beaucoup d'auditeurs ont parlé du suivi, est-ce qu'il y a une cellule qui s'occupe du contrôle des travaux? Donc quand les travaux sont en train de s'effectuer, il y a une cellule qui s'occupe des travaux pour savoir si c'est conforme à la qualité voulue?
Affirmatif, c'est pour ça que je vous dis que ces mesures-là ont été prises parce qu'il y a eu un suivi de proximité qui a constaté ce qui vient de déplorer et nous avons pris des mesures. Et nous pensons que très bientôt, en moins d'un mois, nous allons pouvoir revenir sur cette route-là avec une entreprise beaucoup plus compétente hein, qui fera un bon travail. Mais nous retenons, comme il a dit, que nous devons, dans tout ce que nous faisons, assurer la qualité. Je vais passer peut-être à la question
de Nelson.
De M. Nelson Chimada Lubumbashi. Il a aussi rappelé, au nom de tout le monde, que la responsabilité est partagée et il a parlé beaucoup de la sensibilisation.
Qu'il faudra intensifier.
Il faut intensifier la sensibilisation. Oui, je l'ai rappelé tout à l'heure qu'au niveau central, on essaye de le faire avec nos structures qui sont ici. Et là, c'est vrai que c'est l'occasion aussi de pouvoir dire, par exemple, l'arrêté interministériel qui a été pris doit être suivi des mesures d'application. Nous avons fait une sensibilisation avec les autorités provinciales. Et nous pensons que c'est vrai, c'est encore une faiblesse aujourd'hui. On va tous se mettre pour pouvoir intensifier. Mais là, je voudrais dire qu'il y a aussi une initiative qui va être prise assez rapidement pour que tous les services des travaux publics puissent, avec toute la territoriale, que nous puissions avoir aujourd'hui des autorités, surtout avec ces réformes, ces nouvelles provinces qu'on aura, qui sont capables de faire le relais de cette sensibilisation au niveau des entités. Je vois qu'on venait d'entendre tout à l'heure notre ami de Mbujimayi,
oui,
qui a parlé, par exemple, de quelqu'un qui est dans l'irrégularité, mais qu'une autorité locale favorise. Vous savez, on est le gouvernement central. Aujourd'hui, si ce problème n'est pas entendu au niveau de chaque entité locale, nous n'allons pas avoir de résultats. C'est ainsi que, bientôt, nous sommes en train de préparer le dossier pour qu'il y ait une initiative où, dans le cadre des ateliers, que nous puissions commencer à expliquer à nos différents partenaires.
Et on va poursuivre avec vous parce qu'il y a déjà d'autres auditeurs en ligne. Nous rappelons également pour toutes les personnes qui viennent de se joindre. Nous, on parle de comment la population peut-elle s'approprier des routes et ponts construits. Si vous êtes intéressé par ce sujet, vous pouvez appeler au 081-890-63-94.
Radio Okapi encourage les jeunes talents congolais. Auteurs, compositeurs, interprètes, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiokapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist ou d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiokapi.net. Allez-y, on vous attend.
Nous avons Yuma Makapali qui nous appelle de Kalemi dans la province du Katanga. Yuma, bonjour.
Bonjour la Radio Okapi, bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Oui, je voudrais poser une question à l'invité concernant la projet à Kalemi.
Oui.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour garder le route au moment où il y a des constructions en article sur notre projet de Kalemi? Merci.
Voilà, la communication n'est-il pas très bonne, Mona, compris sa question. Et comment on peut entretenir les routes, bien les garder longtemps, alors qu'il y a beaucoup de constructions anarchiques. Merci, Yuma Matapali, d'avoir appelé du Kalemi, et puis à Kikwi dans le Bandundu, Lauriane Kizamine est en ligne. Bonjour, Lauriane.
Bonjour, Marcel. Bonjour à l'invité.
On vous écoute, Lauriane.
Voilà, le sujet est très intéressant. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que pour que la population arrive à s'imprégner et à s'impliquer dans l'entretien de ces constructions, il faudrait d'abord que l'État puisse créer une relation de confiance. Et cette relation de confiance, moi je pense que ça passe par les actions que même l'État congolais dans la construction des routes et des ponts. Je prends le cas de la route de Kimwenza, celle qui va du rond-point Ngaba jusqu'à Kimwenza en passant par les campus. À faire combien d'années depuis qu'on a promis à la population la réhabilitation complète et totale de cette route, et jusqu'à aujourd'hui, quand il pleut, les gens interceptent pour que la route ne se casse pas. Parce que chaque matin, il y a une surprise. Les gens sont obligés de prendre des motos parce que ça ne va pas. On travaille un matin et on abandonne, on revient une semaine après et on abandonne ainsi de suite. Comment vous voulez que la population puisse faire confiance à un État comme ça, à un État pareil? Comment est-ce qu'elle va s'approprier des travaux de l'État quand l'État ne réalise pas et ne fait pas bien ce qu'il doit faire?
Voilà, merci Lauriane Kizamina d'avoir appelé des Kikwi dans le Bandundu. On va recevoir Jody Kachama. Bonjour Jody.
Bonjour Marcel.
Alors, il y a beaucoup de réactions sur la page Facebook au Capi Service.
Bien entendu, nous avons rassemblé quelques réactions des auditeurs. Ruffin, depuis Kinshasa, dit ceci. Pour moi, il faut partager cette responsabilité entre les constructeurs de ces routes, principalement les Chinois, qui depuis longtemps sont connus par leur usage unique, des routes d'une durée éphémère. Ensuite, nous-mêmes Congolais, qui ne conservons pas bien notre patrimoine, et enfin les gouvernements, en guise, il faut une forte sensibilisation de la population, une stricte surveillance et mettre en place un service d'entretien au quotidien. C'était ça sa réaction. Maneno Kambale nous a écrit, il dit ceci, qu'est-ce que le code de la route prévoit pour les véhicules qui tombent en panne en pleine route? Et Jeanne Kindele, en cas de panne des véhicules sur une route asphaltée, la CNPR devrait avoir une machine qui devant déplacer ces véhicules en panne hors de la route. Et on va terminer avec la réaction d'Abdoul Makassi. Depuis qu'ils sont gagnés, dit l'État congolais doit être très rigoureux dans ce combat de préserver nos ponts et routes. Malheureusement, les agents de l'État qui sont censés assurer la garde et la surveillance de ces différents ponts et routes sont tellement corrompus sur les terrains au point qu'ils peuvent arriver à sacrifier un pont qui a coûté cher au gouvernement à cause d'un petit 5 dollars. Nous le vivons sur la route nationale Bunia-Kisangani. Voilà, quelques réactions des auditeurs sur la page Facebook d'Okapi Service.
Merci Jody Kachama, merci à tous les auditeurs qui ont réagi sur la page Facebook. Alors, retour notre invité, Ilangongo Kizo, directeur de cabinet, adjoint ministre des infrastructures et travaux publics avec nous. On parle de comment la population peut-elle s'approprier des routes et des ponts construits. Alors, on va rapidement passer sur leur réaction Facebook. On va revenir sur ces questions de Mbujima. Ils ont beaucoup de problèmes avec leurs acteurs et on a même évoqué certaines attitudes. On a même envie encore d'en parler. Il y a des gens qui sont censés vraiment prêcher par l'exemple, mais qui se laissent également corrompre.
Oui, je vais rapidement commencer par Madame Lauriane,
oui.
qui est, euh, qui a parlé de relations de confiance. Et
ça, c'est très important.
Je suis tout à fait d'accord avec, et qui a évoqué notamment des travaux qui démarrent, qui ne sont pas achevés. Elle a donné le cas de la route de Kimwenza. Je suis totalement d'accord avec elle que c'est un aspect. Ça veut dire, ça c'est le rôle régalien de l'État, de faire des routes. Et, comme on l'avait dit dans les précédentes émissions, il y a un problème de ressources souvent qui se pose. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient de cette route-là de Kimwenza. Et nous pensons qu'il y a une intervention beaucoup plus élaborée qui va se faire là-dessus. Mais à côté de ça, j'ai voulu juste rétorquer que quand nous parlons de ce civisme aujourd'hui, il y a des exemples à donner. Je vous donne le cas que tout le monde apprécie aujourd'hui, la route de poids lourds, qui a été faite avec les Japonais. Aujourd'hui, j'ai un album ici qui nous donne une centaine des photos d'irrégularités. On les a citées tout à l'heure. Des gens qui viennent, qui stationnent sur la route, qui changent les pneus, qui crèvent l'asphalte, qui mettent de l'huile. Des comportements, comme je vous ai dit, que le produit ne supporte pas. Dans très peu de temps, nous aurons cette route qui va s'abîmer. C'est là que nous faisons appel à ce civisme-là. Il y a cet aspect, M. Jodine Kachama qui venait tantôt sur...
De lire de réaction sur la page Facebook.
La page Facebook. Il a dit la responsabilité des Chinois, des Congolais, de l'État. Et aussi, on a parlé de code de la route et on a parlé de la rigueur de l'État. Je crois que là, il a bien arbitré. Mais bon, nous n'allons pas avoir des préjugés. Aujourd'hui, les Chinois sont là. C'est notre responsabilité à nous de faire en sorte qu'ils fassent le travail selon ce que nous voulons. Et là, encore une fois, c'est l'occasion de nous sensibiliser nous-mêmes, comme on l'avait dit la fois passée. Et je l'informe que des mesures ont été améliorées pour que le contrôle se fasse par des institutions et même des Congolais qui sont conscients de cet aspect de choses.
Et vous avez suivi également Yuma Matapali qui a appelé de Calémie, qui a parlé de constitution anarchique et qui n'arrange pas aussi bien les choses.
Oui, là, je vous ai dit tout à l'heure que la route est dimensionnée pour un certain environnement. Je vous ai parlé de bassin versant. Ça veut dire des eaux qui doivent venir et qu'on maîtrise avec les caniveaux qui ont fait. C'est vrai que les constructions anarchiques ne participent pas à ça. D'abord, ils augmentent les débits et parfois sont dans des lignes où l'eau a la vitesse la plus grande et qui érode, qui coupe la route. Nous avons eu beaucoup de cas dans ce sens-là. Je pense qu'à ce moment-là, il y a l'État qui doit sévir. Des mesures sont prises, je vous ai annoncé quelques orientations, mais je pense qu'aujourd'hui aussi, la population doit aujourd'hui, en même temps que l'État doit indiquer des sites où les gens doivent aller construire, mais sur des sites existants, nous devons pouvoir protéger notre environnement. Et là, je pense que, comme il a si bien dit, il y a des sites où nous avons vu la population s'opposer à quelqu'un qui voulait construire.
Oui.
Je pense que pour nous protéger, pour protéger nos routes, nous devons pouvoir le faire aussi. On a parlé des poubelles. C'est vrai que c'est une
responsabilité. Il n'y a pas des endroits où il faut...
Où il faut faire.
Mais c'est cela explique-t-il qu'il faut jeter vraiment dans les caniveaux. C'est ça la grande question.
C'est ça que je voulais dire. Et je voulais renchérir. Il y a notre ami qui a donné l'exemple du Rwanda. Qu'il a été au Rwanda où il a vu qu'on était en train de...
Il y a des cantonniers.
Des cantonniers qui étaient en train... Mais je l'informe que dans la ville de Kinshasa, l'assainissement a été mis en place pour ça. Mais là aussi, il y a le civisme. Nous avons vu parfois... Parmi nos jeunes gens qui étaient en train de balayer, au lieu de mettre dans des zones alors qu'il y a des brouettes mobiles qui viennent pour ramasser, ils préféraient remettre ça dans les caniveaux. Et là, parfois, la population regarde et ne réagit pas. Donc nous disons aujourd'hui, si vous voyez, il y a une grande partie de la ville aujourd'hui qui est nettoyée régulièrement, mais malheureusement, parfois... Les personnes qui travaillent ne respectent pas cet aspect de choses. C'est à nous tous de pouvoir nous impliquer. Et aujourd'hui, je pense que nous pouvons faire mieux que le Rwanda, parce que nous croyons que le Congolais, quand il prendra conscience, nous sommes nombreux, nous allons nous prendre en charge, et nous pourrons bien nettoyer nos villes.
Voilà, je crois qu'on va s'arrêter par là, c'est le message, c'est ça le message que tout le monde est concerné dans tout ce qui concerne les routes, les ponts concernés. Moi, que vous ayez quelque chose à ajouter rapidement, oui.
Oui, je voulais aussi vraiment insister pour celui qui nous a parlé de la route de Bounia,
oui.
Parce que je l'ai dit la fois passée, nous avons vécu ça. Et c'est vrai, nous sommes en train de le dénoncer. Je crois qu'il y avait le ministre de l'Infrastructure qui était dans la délégation. Nous avons trouvé un camion qui avait trois fois le tonnage qui devait passer sur le pont.
Ah, ça c'est important également, les tonnages à respecter pour le passage.
En présence des autorités locales et même de la police locale, nous avons demandé qu'on puisse se décharger. Et à l'occasion, nous avons sensibilisé la personne. Et nous avons même donné nos numéros de téléphone. Mais je vous dirai Et ça, nous ne devons pas voiler la face. On était en train de repartir vers Beni quand le monsieur a téléphoné en disant « Oui, merci, mais je voulais vous dire que je suis passé. J'ai donné un peu d'argent et je suis passé. » Et il a même dit que les mesures que vous prenez, l'argent que vous donnez à vos hommes, nous allons donner le double. Vous comprenez que là, ça devient un problème de conscience, un problème de civisme. Et face à ça, l'État, c'est nous tous qui devons pouvoir réagir pour arrêter cela. En tout cas, c'est un débat qui nous intéresse. Nous sommes mobilisés pour la sensibilisation, comme on l'a dit, pour prendre des mesures, la mise en application des mesures de protection. Vous rappellerez que dernièrement, on a beaucoup spéculé sur l'arrêt des camions que le gouverneur de la province de Kassa Occidental avait pris en continuité des mesures qui avaient été prises. Les gens ont réagi, mais sur ce plateau, nous avions dit qu'il avait raison. Là où les essieux ont permis qu'il y ait 6 pneus, les gens mettaient 4 pneus et cela cassait la route. Le gouverneur a pris ses responsabilités. Les gens ont réagi, mais on a pu maintenir cela et ça peut protéger notre route. Et nous pensons que nous allons prendre nos responsabilités, mais nous sommes ensemble. Je rappelle, c'est le patrimoine de la population qui puisse protéger. Et nous, ils nous donneront la force de pouvoir agir pour leur bien.
Ilan Gongo Criso, directeur de cabinet adjoint ministère des Infrastructures et Travaux Publics, merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de cette question, comment la population peut-elle s'approprier des routes et des ponts construits. Merci beaucoup, on espère vous retrouver prochainement.
Merci beaucoup et merci de nous donner l'occasion de pouvoir partager ces choses avec la population.